Un sol majeur.
C'est une afro-occidentale assumée qui s'est nourrie dans son enfance camerounaise en vrac de Goldorak, Césaire, Grandmaster Flash et Anita Baker. Vrai ? Elle me
tout
fait
à fait
avec
vrai.
Le pouce.
Non, mais
super.
Anita Baker, n'oubliez pas Anita Baker.
une
grande chanteuse.
Une métissée culturelle, belle comme une chanteuse de jazz. Alors attention, peut-être surprise en sol majeur à la fin de l'émission, on verra. Mais il se trouve que Leonora Miano est, jusqu'à preuve du contraire, d'abord une romancière, donc les mots ont du sens. Est-ce que le terme d'afro-occidental assumé, ça plaît à tout le monde, ça, notamment à vos compatriotes?
Je ne me pose pas la question, chacun a son histoire et se trouve que c'est la mienne. Et je ne veux pas imposer à tout le monde d'être des afro-occidentaux. Et moi, je suis ça. Et je ne vais quand même pas demander pardon d'être sur la terre parce que voilà, je me suis construite comme ça. On parlait de mes parents tout à l'heure. Ma mère est venue en France pour faire sa classe de CM2. Mon père est venu adolescent et puis il est rentré au Cameroun avec son diplôme de pharmacie. Donc voilà, j'ai été élevée par quelqu'un qui nous servait du fromage à table tous les jours après le ndolé et c'était normal.
Mais ça veut dire quoi une afro-occidentale assumée?
Ben ça veut dire que pour moi ces deux parties de mon identité cohabitent en parfaite harmonie, elles ne sont pas en lutte, elles se valorisent même l'une l'autre, je crois, et c'est très bien comme ça, je le vis très bien, j'ai pas envie de choisir.
Donc vous assumez votre langue, votre couleur, vos cheveux. Je demande ça parce que certains de vos personnages romanesques sont dans des situations un petit peu de rejet par rapport à ça.
Oui,
ça
comme beaucoup de gens dans la réalité. Je ne fais pas partie de ces gens.
Non, vous êtes à part. Ça se sent.
Non, je crois que nous sommes un peu plus nombreux que ce qu'on croit.
Vous échappez au syndrome de la détestation de soi-même, donc.
Oui, parce que j'aime vivre. Parce que j'aime vivre et que j'aime les autres. La détestation de soi mène souvent à la haine de l'autre. Donc, je ne vis pas dans ce schéma-là. Et puis, je ne vois pas bien à quoi ça m'avancerait.
Car l'Afrique, dites-vous, n'échappe pas, en revanche, à ce syndrome.
Non, mais les espaces afro, en général, les espaces noirs. Où dit-elle, quand je dis espace afro, je veux parler de la Caraïbe d'origine africaine ou du monde noir américain, où ce sont des espaces où les gens ont intériorisé les représentations négatives qu'on a eues d'eux dans le passé, et il est difficile d'en sortir pour plein de raisons.
La chanteuse de minuit est sur le pick-up d'un sol majeur, Barbara, donc, avec le soleil noir. Je crois comprendre que vous êtes vraiment une amoureuse des voix, ça se sent. Mais pourquoi cette voix-là?
Parce que ma mère écoutait Barbara, tout le temps. C'était la seule chanteuse française qu'on avait à la maison, et voilà.
C'est tout.
C'est une chanson d'enfance.
Je sais pas pourquoi je demande.
Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris. Je suis sortie des brumes et je me suis enfuie sous les ciels plus légers, pays de paradis. Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres. Et vous ferez le bruit d'un heureux tintamarre, des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenées, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont la feu brûlerait l'éternel été. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire. Et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, et vous pouvez me croire. Je reviens fatigué, j'ai le désespoir. Légère, si légère, j'allais court vêtue. Je faisais mon affaire du premier venu. Et c'était le repos, l'heure de nonchalance. Approche, que veux-tu, et j'entrais dans la danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare. J'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin, j'allais pouvoir enfin vous revenir avec l'œil à longue vague de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la rage de vivre. Et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard. Que la vie était belle et folle, mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas. Mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir. Les hommes sont murés tout là-bas quelque part. Les hommes sont murés et c'est le désespoir. J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli. J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui. Et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire que la vie était belle, fascinant le hasard qui me menait d'ici ailleurs ou autre part. Où la fleur était rouge, où le sable était blanc. Où le bruit de la mer était une chanson. Oui, le bruit de la mer était une chanson. Mais un enfant est mort là-bas quelque part. Mais un enfant est mort et le soleil est noir. J'entends le glas qui sonne tout là-bas quelque part. J'entends le glas sonner et c'est le désespoir. Je ne ramène rien, je suis écartelée. Je vous reviens ce soir, le cœur est gratigné. Car de les regarder, de les entendre vivre, avec eux j'ai eu mal, avec eux j'étais ivre. Je ne ramène rien, je reviens solitaire, du bout de ce voyage au-delà des frontières. Est-il un coin de terre où rien ne se déchire? Et que faut-il donc faire, pouvez-vous me le dire? S'il faut aller plus loin pour effacer vos larmes, et si je pouvais seul faire taire les armes, je jure que demain je reprends l'aventure, pour que cesse à jamais toutes ces déchirures.
Barbara en sol majeur dans le programme de notre invitée, la romancière Leonora Miano, née dans le jazz de papa à Douala, installée en France aujourd'hui et en littérature.
À quel moment pensez-vous dans l'autre langue?
Je ne sais pas si ma réponse va vous plaire, je ne pense qu'en français. Je ressens dans d'autres langues, je pense en français. Le français est pour moi la langue de la cérébralité. Donc oui, je pense en français, mais si je tombe et que je me fais très mal, je ne crie qu'en Douala.
Uh-huh.
Mais je ne parle pas le Douala.
Ah, vous ne parlez pas le Douala?
Non, j'ai été élevée en français.
D'accord.
Voilà, mes grands-parents ont toujours parlé français, mes parents aussi.
Alors ça veut donc, dire quoi, ressentir les émotions dans les autres langues?
Ben, ça veut dire que si je suis très étonnée, si vraiment je ressens une émotion très forte, les mots qui me viennent sont des mots du Douala et je ne peux pas l'expliquer. C'est comme
mais
ça.
Mais je croyais que vous ne parliez pas le Douala.
Je non, mais pas, je ne le parle pas par ailleurs.
Ah oui.
Mais c'est pour ça que je dis que je ressens en Douala. Ça m'arrive de rêver en anglais. Même des passages de mes livres, écrits pourtant en français, et je ne peux pas non plus l'expliquer. Parce que je suis très francophone, en fait. Je ne parle pas anglais plus que ça.
Alors, avec toutes ces histoires d'identité, vous vous sentez appartenir, dites-vous, à ce que vous appelez les identités frontalières. Ça, c'est un concept qui me plaît bien. Oui. C'est quoi?
Ah, c'est simplement le nom intelligent que j'ai donné à ma manière de vivre. Et je pense que ça s'applique à toutes les personnes qui ont le sentiment d'appartenir à deux mondes, ou même à plus que ça, mais de ne pas être entre deux, d'être vraiment à l'endroit où ces mondes se touchent en permanence. C'est pas un lieu de séparation. Pour moi, la frontière n'est pas un lieu de rupture, c'est le lieu d'un accolement permanent, c'est-à-dire que l'Occident en moi touche l'Afrique tout le temps et touche le monde créole tout le temps, et c'est voilà, et c'est comme ça que je me sens bien dans cette totalité.
Est-ce que cette frontière se retrouve dans votre écriture?
Oui,
qui est apparemment classique, hein.
Oui, apparemment, faut se méfier des apparences. J'ai pas une ponctuation classique. Ma manière de ponctuer fait que les correctrices, qui elles sont très très à cheval sur les principes justement de la langue classique, s'arrachent un peu les cheveux. Donc on les prévient même à l'avance, on leur dit attention, on aura une manière de ponctuer qui est peut-être fautive si on considère la grammaire, mais c'est la sienne.
Vous auriez un exemple, parce que vous avez votre roman? Non,
c'est pas mon roman.
Ah, celui-ci, c'est le vôtre. Moi, je l'ai, votre roman. Non, vous ne pouvez pas le faire.
Ah non, je ne peux pas le faire ça non plus, parce que je ne trouve jamais, moi, ma ponctuation fautive. Je ponctue en fonction d'un rythme intérieur, et donc ce n'est pas fautif. Mais il paraît que grammaticalement, ça l'est. J'écris une langue accessible à toutes les personnes francophones, et j'y tiens. Je tiens aussi à ce que parfois les images de cette langue soient empruntées à d'autres espaces, les images qu'emploient les personnages, ou bien simplement celles qu'on retrouve dans la narration, ne sont pas nécessairement des images habituelles pour un français d'ici, quoi. Et je pense que à la lecture de ces textes, il perçoit tout de suite ce qu'il y a, une forme d'altérité.
Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
I'm going to improvise like a writer on some assumptions. And though I feel a little uneasy in doing this, in saying this, nevertheless, what a writer is obliged at some point to realize is that he's involved in a language which he has to change. For example, for a black writer, especially in this country, to be born into the English language is to realize that the assumptions of the language, the assumptions on which the language operates, are his enemy.
Vous nous présentez cette superbe voix, Léonora Miano.
C'est la voix de James Baldwin, qui vient de qui n'a pas encore commencé à faire les improvisations qu'il promet de faire sur des assertions communes dans la langue anglaise, et qui nous explique qu'évidemment ça lui sera facile de le faire, mais qu'en réalité un auteur noir doit quand même considérer que lorsqu'il utilise l'anglais, un auteur noir anglophone utilisant l'anglais est obligé de considérer que certains des éléments sur lesquels cette langue fonctionne sont ses ennemis, lui sont opposés.
Wow.
Et alors pour ceux qui regarderont la vidéo qu'on peut trouver sur YouTube facilement,
et ce sera sur notre blog des amours.
Et James Baldwin va parler par exemple des multiples significations du terme noir, ou des très très nombreuses comment dire, maximes, idées, locutions dans lesquelles le mot noir est forcément toujours attaché à quelque chose de négatif, et de comment on écrit quand on sait ça et qu'on est noir, ou en tout cas dit noir.
Et sa pensée littéraire a pesé sur votre construction personnelle et littéraire ?
Ah, James Baldwin est mon deuxième choc littéraire le plus puissant après Césaire. J'ai découvert Césaire, j'avais 12 ans, et un de mes cousins m'a offert La prochaine fois le feu de James Baldwin quand j'avais 14 ans, et ce sont des livres qui ont changé ma vie.
Mais cette notion d'adversité, vous ne la reprenez pas à votre compte, vous qui êtes dans un concept d'identité frontalière.
Hein. Je ne vis pas à l'époque de la ségrégation, ni celle de la colonisation, mais enfin, je pense que je suis devenue noire en les lisant. Parce que être noir, c'est pas juste une question de couleur de peau, c'est une question beaucoup plus vaste et complexe que ça. C'est justement, est-ce qu'on prend à son compte l'histoire qui a désigné des personnes comme étant noires, et ce que cette histoire a engendré de blessures, de luttes, d'opposition, et peut-être demain d'autres choses, on l'espère.
Est-ce que vous reprenez alors à votre compte cette interrogation ? Est-ce que vous écrirez toujours sur l'Afrique, pour poser simplement la question ?
Écrire sur l'Afrique, ça n'a rien à voir avec être noir.
Allez, hop là.
Circuler. Parce que quand on est en Afrique, entre Africains, la question de la couleur ne se pose pas de cette manière-là. Pour qu'elle se pose, il faut qu'il y ait une altérité.
Mais vous la vivez, cette altérité, en écrivant en France ?
Je la vis en écrivant en France, bien sûr. Et j'appartiens au monde noir parce que je me sens proche des populations afrodescendantes et de leur histoire. Ça m'intéresse, je me sens partie prenante de toute cette affaire-là. Maintenant, ça ne signifie pas que mon individualité soit soluble nécessairement dans tout ça. Je suis noire, je me sens noire, j'emploie encore ce terme, même si je connais toutes les raisons pour lesquelles je pourrais ne pas le faire. C'est encore comme ça que je me définis aussi.
Alors, on dit que vous écrivez jazz, Léonora Miano. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ça fait assez obscur pour moi, pour être tout à fait honnête.
Et pourtant,
sauf
c'est très courant.
Quand j'apprends, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus clair pour autant. Sauf quand j'apprends que vous-même, vous chantez. Alors, j'ai été fouillée un peu sur Internet. J'ai vu que vous étiez en concert le 10 décembre à Pantin. Est-ce que c'est possible, ça ?
Oui, ce sera surtout les autres qui seront en concert. Je suis à les accompagner, c'est tout. J'ai conçu un petit spectacle et je viendrai pour faire plaisir aux gens.
Jouez pas la modeste. Est-ce qu'on pourrait avoir...
Non, je ne joue pas du tout la modeste. Je trouve que
vous êtes très camerounaise, c'est ça que j'ai compris pendant cette conversation.
La fausse modestie est quelque chose de très vulgaire et j'ai tous les défauts, mais je ne suis pas vulgaire.
Vous êtes coquine, donc, vous êtes moqueuse.
Oui,
et vous engueulez les gens quand vous les aimez. C'est ce que vous m'avez dit être la définition de l'identité camerounaise, c'est ça ?
De l'affection à manière camerounaise, en tout cas de la tendresse camerounaise est un peu rude.
J'en conclus que vous ne me détestez point. Alors, un petit aperçu à Capella
qu'est-ce que vous voulez que je chante ?
Pas un petit standard de jazz, un de vos standards de jazz, Léonora Mello.
Alors, j'en ai plein, et alors, il faut prévenir tout le monde que je n'aime que les chansons rasoirs, que les autres n'aiment pas, qui ne connaissent pas, n'ont jamais entendu. Et donc là, je vous propose la énième complainte d'une femme abandonnée le soir qui pleurniche parce qu'on l'a laissée. Elle se s'appelle Sharing the Night with the Blues. Hein? Et vous trouvez ça sur l'album de Shirley Horn qui s'appelle May the Music Never End. Et ça fait The Midnight Hour. Cold, dark and lonely, I dream about the love I know holds me. Why did you leave me sharing the night with the blues?
Wow.
Pas demander la permission.
Ah oui, parce qu'on est filmé.
Your image taunts me, wakes me and taunts me. Without your love here, why should it haunt me? How could you leave me, or share in the night with the blues?
Merci, Léonora Miano. Ça aurait été dommage de ne pas vous entendre. Magnifique. Non, mais c'était juste un petit... On voulait peut-être déposer quelque chose sur Facebook, une petite vidéo.
Oh.
On ne vous en a pas parlé avant. Ouf, on est vilain. Allez.
Oui, c'est très, très vilain.
C'est très vilain, ça. Cassandra Wilson, est-ce qu'on peut l'écouter? Parce que je suppose que c'est l'une
de vos grandes
influences. Death Letter.
Ah oui, Sublime Blues, chanson de Sunhouse.
On l'écoute?
Oui.
Cassandra Wilson, dans le programme en sol majeur de Léonora Miano.
But old boy, lay down till judgment day.
C'est qui chante ça? C'est Léonora Miano ou c'est Cassandra Wilson?
Non, là c'est Cassandra Wilson, évidemment, la très grande Cassandra Wilson qui interprète un classique, hein, du blues. Pour ceux qui aiment le blues, cette chanson a été écrite par Sondheim il y a déjà très longtemps.
Donc ça se passe sur RFI dans le tempo de la romancière Léonora Miano, une petite terreur qui ne mâche pas ses gammes ni ses mots.
Liberté, égalité, fraternité sont les mots fondateurs de la Déclaration des droits de l'homme. Lesquels de ces trois mots vous fait les plus défaut dans votre vie de tous les jours?
Alors ça, j'ai du mal à répondre à cette question. Dans ma vie de tous les jours, pas forcément dans le monde, mais dans ma vie. Franchement, aucune. Aucune.
Vous ne pouvez pas être neutre, en tout cas, sur cette question, avec les glissants Baldwin Césaire
non,
comme
mais
père
c'est pour
et
ça
repère.
Que je disais dans le monde ou dans ma vie. Dans ma vie, à moi,
oui.
En tant qu'individu, en tant que personne, aucune. J'ai la chance de vivre principalement dans un environnement artistique où il y a, oui, de la fraternité, de la liberté, de l'égalité. Tant qu'on est dans cet environnement artistique. Ensuite, lorsqu'on est confronté au monde, pour que les choses paraissent, par exemple, pour que certaines choses arrivent, existent, voilà, là, ça peut être difficile. Mais tant que je suis avec les miens dans ma bulle, ma petite famille de cœur, ça se passe très bien.
Dans Tel désastres éteints, vos personnages sont des Parisiens qui sont issus de la diaspora, qui vivent leur identité noire de manière très différente. Mais la question semble quand même posée, vous la posez, est-ce qu'une fois qu'on a mis les pieds ici, est-ce qu'on n'a pas un problème de place partout?
La question ne se pose pas pour tous. Je pense qu'elle se pose pour ceux qui n'avaient pas déjà réglé ce problème de qui je suis. Qui je suis et qu'est-ce que je veux. Et je pense qu'il faut y répondre aussi un peu en tant que d'abord individu.
C'est une question que vous aviez réglée déjà au Cameroun ?
Je ne peux pas dire ça comme ça. En tout cas, pas de manière consciente. Pas de manière consciente. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents, et mon père notamment, qui voulait, pour ses enfants, que nous soyons libres. Et notre parole n'a pas été bridée, nos désirs n'ont pas été bridés. On m'a laissé être ce que je voulais, même quand le monde alentour trouvait que c'était pas bien. Moi, à 15 ans, mon père m'a donné les clés de la maison et me demandait pas où j'allais. Et donc, j'allais pas n'importe où.
Donc aujourd'hui, la question de votre place ici ou sur le continent natal ne se pose pas plus?
Non, elle ne s'est jamais posée. Je ne voulais pas venir en France, mais lorsque j'y suis arrivée, je ne me suis pas sentie perdue. Du tout, je n'ai pas éprouvé de malaise. Et si le Cameroun me manque, eh ben je prends l'avion. Je veux dire, c'est simple, hein, c'est très très simple. Il faut se simplifier la vie à ce niveau-là. Et je vis simplement où je peux me réaliser.
Au début de l'émission, je vous présentais comme une Française née au Cameroun. Puis j'ai eu un doute finalement en regardant votre parcours. Est-ce que vous vous déterminez définitivement comme une Afropéenne? C'est ça qui est la...
Ça me va très bien, mais je pense qu'afro-occidental est vraiment le terme le plus juste, parce qu'afropéenne, c'est afro-européen. Moi, je me sens aussi autre chose qu'européenne. Ma culture littéraire est très afro-américaine, et la littérature est importante dans ma vie, comme chacun sait. Donc voilà, je dirais afro-occidental plutôt qu'afropéenne, mais ça me va très bien, ces associations-là.
En sol majeur, @rfi.fr.
On n'a pas eu le temps de faire un petit détour par votre ville de cœur qui était Douala. On l'embrasse malgré tout. Nous attendons vos réactions sur le blog et puis vos témoignages aussi sur votre double, triple culture. Vous pouvez vous lâcher un petit récit, une petite anecdote qui raconte la richesse et puis le reste de cette aventure spéciale et unique à chaque fois. Merci Léonora Miano.
Merci à vous.
Je rappelle qu'elle a une voix. Je rappelle que votre roman Les Aubes Écarlates est paru chez Plon. On va se quitter avec du lourd pour ceux qui aiment les bassistes de jazz fusion. Monsieur Marcus Miller est là avec Rush Over.
Rush Over avec Michel Denge au cello. À la voix.
Et alors?
Et alors j'ai écouté cette chanson, elle date de 95, j'étais enceinte. Et ma fille a écouté du funk pendant toute la grossesse.
Elle swing aujourd'hui?
Elle est née avec le groupe.
inside me, the warmth of a kiss beneath my very skin. I want to experience the taste of dark berry nectar, the seed of life. Heaven everlasting, the phone just won't suffice no more. My imagination is filled and my cup running over.
You feel the same for me.
Yeah.
Caroline Fuyette, Marc de l'Ouvrier, Richard Ifono, Yasmine Chouaki, on se retrouve demain autour d'une âme algéro-française, celle du romancier Abderrahmane Boufraïn. Bonne journée sur RFI.